Bonjour, Raymond Richard au micro. Pour cette émission, Foi, chemin de liberté, je vais aborder la question du coronavirus. On peut se poser la question, comment se fait-il qu'un virus transmis par une petite bestiole d'un marché chinois puisse à ce point impacter la vie du monde? Quelques malades en Chine, puis dans toute l'Asie du Sud-Est, puis dans le monde entier. Et voilà que l'économie se met à l'arrêt, que les avions ne décollent plus, que la société est comme sidérée, paralysée par cette petite bestiole. Que s'est-il passé? Le virus est inconnu, les experts ne savent pas comment le soigner, les maladies qu'il provoque sont sévères et la contagion se fait facilement. Ce qui amène les autorités politiques des différents États à prendre des mesures, et notamment des mesures de confinement. Les courses sont apportées à domicile, dans certaines régions, dans certains lieux, on ne peut plus circuler. En France, c'est toute la société qui est impactée. Le travail se fait en télétravail, on ne peut plus se rendre sur place au bureau, à l'usine ou dans l'entreprise. Les enfants sont renvoyés chez eux, plus d'école, de la maternelle à l'université, tout le monde reste chez soi, par Internet, par les médias, et notamment l'informatique. Les enfants ont reçu leur travail à faire, les fiches de réponse ont été envoyées, la communication se fait entre l'enseignante et les enfants. Donc, une société qui se trouve bloquée, et puis un certain nombre de choses interdites. Donc on ne peut sortir que pour les besoins essentiels, faire ses courses, aller chez le médecin, aller rendre visite à une personne malade ou âgée. Donc ce sont les déplacements indispensables qui sont autorisés. Et puis aussi, même le fait qu'il soit autorisé, voilà une transformation qui bouscule nos habitudes. La liberté est quand même un des points essentiels de nos sociétés. Et là, il faut décliner son nom, son prénom, sa date de naissance et dire pourquoi on se déplace. C'est véritablement une intrusion telle que jamais on n'a connu quelque chose de pareil, sauf en temps de guerre peut-être. Et c'est bien ce mot « guerre » qui a été utilisé par le chef d'État pour dire « eh bien, nous sommes engagés dans un combat, une guerre contre le virus ». Le mot est d'autant plus fort que l'incertitude concernant les traitements, la manière de venir à bout de la maladie qui se répand, de l'explosion de contagion avec la mortalité qui s'ensuit, nous rend tous vulnérables. Le recours aux experts, mais les experts sont différents, et c'est l'occasion aussi de s'apercevoir que derrière l'expertise scientifique qui s'affiche, il y a aussi des rivalités et qui font que cette croyance ou cet attachement à la science pour venir à bout des problèmes montre ses limites. La technique et la science ne sont pas des sciences parfaites, exactes, ne correspondent pas forcément à la réalité, et peut-être faut-il plus s'attacher au réel que à cette expertise scientifique. En tout cas, c'est ce que le combat des experts. Derrière la santé, ce n'est pas unanimement le bien commun qui se dévoile, mais aussi des rivalités d'école et d'économie, parce que qui aura le vaccin, qui aura le meilleur traitement, on voit tout de suite l'enrichissement possible. Cela nous amène à poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des biens communs à soustraire, justement, à l'appétit de l'entreprise, de l'économie, le tout économique, le tout technique, le tout structure, et peut-être à regarder comme quelque chose que l'on doit mettre à son service et non pas quelque chose qui doit diriger, orienter notre action. La Covid nous a révélé aussi quelques aspects de la société. Derrière une société qui est quand même très cadrée, très technique, on a vu que dans le milieu hospitalier, que l'on voulait aussi encadrer par des protocoles, des techniques, l'infirmière passant plus de temps non, peut-être pas plus de temps, mais passant un certain temps devant l'ordinateur pour consigner le traitement fait et les observations qu'elle a pu faire, plutôt que s'asseoir sur le bord du lit du malade pour un instant d'écoute et d'humanisme. Bien là, on perçoit justement que c'est montré insuffisant, en tout cas incapable de faire face. Et ce qui a fait face, c'est l'ingéniosité des soignants, c'est le dévouement des soignants. Et c'est aussi l'appel à la société civile. Lorsque les masques manquent, lorsque l'avion qui amène la cargaison de masques qui vient de Chine doit se poser pour des raisons techniques, et que ces masques sont pris parce qu'un autre pays en a besoin, on perçoit qu'il y a quelque chose aussi de difficile, de sordide, pourrait-on dire, voler les masques. Mais en même temps, tous en ont besoin. Ce qui nous pose la question aussi de la répartition des moyens, de la répartition de ces biens. On a vu aussi ce dévouement, ces soignants qui n'ont plus compté leurs heures, ces gens qui étaient à la retraite, qui sont revenus travailler sur le champ de l'hôpital, l'armée qui s'est mise au service de l'hôpital, les chemins de fer, on ne pouvait plus circuler, mais les TGV ont transporté d'un bout à l'autre du pays les malades qui pouvaient être soignés ailleurs, parce que dans la zone la plus exposée à l'épidémie, l'impossibilité pour chacun d'être soigné a fait que l'on a emmené des malades à l'autre bout du pays, où ils ont pu être soignés. Donc, une société où vraiment le meilleur s'est révélé. On a vu des médecins qui venaient d'Amérique latine, venir en Italie. Bref, aussi une solidarité interétatique qui est importante, outre cette solidarité à l'intérieur des États. Et puis, à côté des soignants, qui étaient en première ligne et sur lesquels souvent, les médias ont montré à la fois leur dévouement. Alors, c'était tel restaurateur qui apportait des repas, tel pâtissier qui faisait les desserts, etc. Tous se mettaient au service des soignants. Mais on a vu aussi des gens qui, dans l'ombre, faisaient leur travail, qui ne s'étaient pas mis en chômage technique, qui continuaient à ramasser les poubelles, qui continuaient à apporter l'approvisionnement nécessaire pour que les magasins puissent livrer la nourriture indispensable, que chacun pouvait aller chercher une solidarité de voisinage. Je descends faire le marché, je vais faire des courses à tel magasin. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? C'était là aussi une sortie de chez soi pour être attentif à l'autre. On voyait ici se mettre en place la société du care, du soin. Si cela est réconfortant, on perçoit aussi que les inégalités persistent. Au-delà de la loi qui était la même pour tous, pas de possibilité de sortir, pas de promenade sur les plages, bref, une législation la même pour tous. Mais elle a des impacts différents selon que l'on habite dans un immeuble ou dans une maison, lorsqu'il y a à proximité un espace de nature où on peut se promener, ou bien lorsqu'il n'y en a pas. C'est très difficile parce que justement il y a un enfant handicapé dans la maison et que l'étudiante qui doit renvoyer son TD ne peut pas forcément avoir les facilités qu'elle peut trouver lorsqu'elle est sur son campus. La vie quotidienne n'est pas vécue par tous de la même manière et encore plus lorsqu'il s'agit de comparer la situation de nos pays européens aux pays des tiers-mondes. Ainsi, en Afrique, l'urgence de santé publique absolue qui confine les populations ne tient pas forcément compte de la situation des pays. Certains ont des infrastructures sanitaires insuffisantes et les populations africaines, par exemple, non seulement sont menacées par le virus, mais aussi par ses conséquences politiques, économiques et sociales. Des pans entiers de populations ne disposent d'aucune protection sociale. En Afrique, si on ne travaille pas, il n'y a pas de revenus. dans telle ou telle région, les femmes nous disent, eh bien, s'il faut choisir entre le riz et le masque, je vais peut-être choisir le riz. Lorsque l'enfant indien, sur son tas d'ordures en train de trier pour trouver de quoi échanger pour pouvoir manger, il dit, eh bien, je suis mourir de faim ou mourir de la Covid. Finalement, il y a peu de différence. Donc on réalise aussi combien à l'échelle du monde, alors que la pandémie atteint tous les pays, il y a des différences et cela nous amène peut-être à se poser la question, mais ne doit-on pas, dans le monde d'après la pandémie, penser un peu plus ou changer nos habitudes pour que les biens soient mieux répartis? Les dimensions sociétales de la crise ne se sont pas fait attendre. Dans l'économie, puisque la Chine maintenant est la plateforme économique du monde, alors que celle-ci bloque tous les échanges, l'économie mondiale se trouve complètement bouleversée. Les secteurs du tourisme, les transports sont aussi touchés. Et puis, la fragilité financière se manifeste. Alors que dans les pays de l'OCDE, ce sont les services qui représentent une plus grande part du produit national brut, les contraintes de confinement vont arrêter ces services. Et l'aspect économique de la santé, à savoir les masques, les médicaments, les respirateurs, se fait lui aussi sentir, puisque une bonne partie des masques viennent aussi de ces pays d'Asie du Sud-Est. La responsabilité des politiques est très grande, puisqu'ils ont fait des choix de la division internationale du travail pour des raisons financières, pour des raisons d'économie, pour des raisons de... Il faut s'attendre à ce que les conséquences économiques de la Covid soient lourdes et ne sont pas encore toutes connues, ce qui nous amène à réfléchir à la posture à adopter vis-à-vis de cette crise économique. La crise amène une opportunité pour innover et développer des nouveaux outils technologiques, de travail, d'autonomie, mais aussi de surveillance sociale et politique. De telle sorte que l'écologie intégrale, visée par l'audace aussi, au-delà de la victoire sur le virus, de s'ajuster aux conditions économiques et aux conditions sanitaires, aux conditions culturelles dans chaque pays. Là, le pape François propose de ne pas séparer des objectifs particuliers. Aujourd'hui, la santé et l'hygiène publique, c'est aussi quelquefois le trou d'ozone, le gaz à effet de serre, l'eau potable, la pureté de l'air, les forêts, la diversité des espèces végétales. C'est d'ailleurs peut-être la destruction des forêts qui oblige les animaux qui vivent loin des hommes à être en contact avec eux, et c'est ainsi que le virus s'est propagé. Ces problèmes doivent être embrassés d'un seul regard. La proposition de Laudato Si, de tenir à la fois ensemble l'écologie humaine, l'écologie environnementale, de tenir compte à la fois de la terre, mais aussi des hommes, donne finalement une proposition intéressante pour tous. Il dépasse les logiques de court terme, les logiques d'intérêt local ou d'intérêt national, et il propose que dans cet imbroglio de contradictions qui est celui des systèmes complexes de notre époque, que au-delà des idéologies, au-delà des choix politiques, les hommes s'entendent pour trouver des solutions qui, à la fois, concernent la santé, l'économie, l'environnement, mais aussi sont intéressants pour chaque membre de la communauté humaine, tout particulièrement les plus faibles, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas accès aux ressources sociales, ceux qui ont souvent fait les frais des ajustements économiques. C'est dans Laudato aussi qu'il y a peut-être à rechercher l'attitude à avoir vis-à-vis du coronavirus. L'écologie intégrale qui est esquissée propose des choix difficiles, mais qui ajustent les libertés individuelles et le bien de tous. La crise du coronavirus vous donne une bonne occasion de relire ce très beau texte du pape. Là-dessus, je vous dis bonne semaine à tous. Au revoir.